Religion du monde, Véronique Guémard.
Bonjour à tous. Les talibans règnent de nouveau depuis un an sur l'Afghanistan. La chute de Kaboul le 15 août 2021 et le chaos de l'évacuation des forces occidentales ont laissé la place au régime des talibans qui avait été chassé du pouvoir par l'intervention américaine fin 2021.
Les manèges tournent toujours dans le petit parc d'attractions qui jouxte le zoo de Kaboul. On y rencontre des familles qui s'y promènent et des jeunes filles accompagnées aux voiles colorées qui croisent dans les allées de jeunes talibans en turbanie. Lorsque ces derniers grimpent dans les nacelles, enthousiastes, les jeunes femmes attendent sur les côtés et observent la scène médusée. Ils me font peur, confie une fillette qui a effectué ce samedi sa première sortie en famille depuis la prise de pouvoir par les talibans. Je suis heureux d'avoir l'occasion de les rencontrer enfin, nous dit au contraire un jeune kaboulien en désignant un groupe de talibans près d'un stand de tir à la carabine. L'un des hommes tente alors de gagner l'une des peluches suspendues, mais rate ses cibles. Kaboul est étrange pour tous ceux qui ont connu la capitale afghane avant la chute du précédent régime. Dans les rues, les vendeurs de ballons semblent avoir cédé leur place aux vendeurs de drapeaux talibans et de pins à l'effigie de l'émirat islamique d'Afghanistan. Les femmes sont plus rares aussi, y compris dans le centre de la capitale, où des files d'attente longent les murs des banques. Il n'y a plus de cash, plus de travail, se lamentent de nombreux Afghans. Des centaines vendent d'ailleurs leurs biens sur les trottoirs d'un quartier de Kaboul. Plus de 9 ménages sur 10 n'ont désormais plus assez à manger, selon le Programme alimentaire mondial. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI.
21 ans plus tôt donc, les attentats du 11 septembre contre les tours du World Trade Center et le Pentagone aux États-Unis étaient perpétrés par Al-Qaïda, dont le chef Oussama Ben Laden était hébergé à l'époque en Afghanistan par les talibans. Son objectif, attirer les États-Unis en Afghanistan.
Jamais, jamais on n'avait vu cela, jamais un scénariste même doté d'une folle imagination ne l'aurait imaginé, jamais le terrorisme avait frappé aussi fort. Et pourtant, c'est arrivé à New York, aux États-Unis. Un avion a percuté le sommet d'une des deux tours du WTC, le World Trade Center, qui a pris feu aussitôt. 18 minutes plus tard, un autre appareil, là aussi un avion de ligne, a perforé de part en part la deuxième tour. Toute la structure de l'immeuble est sectionnée. Dans Manhattan, c'est la panique. Les rues sont évacuées.
Le président George W. Bush a lancé en représailles l'intervention occidentale en Afghanistan contre Al-Qaïda et pour chasser les talibans qui les protégeaient. Un nouveau régime est installé. Plus de 20 ans après, et des milliards de dollars déversés et mal gérés dans un pays laminé par plus de 40 années de guerre, les talibans reprennent donc le pouvoir et se veulent une continuité de l'État islamique qu'ils avaient instauré en 1996. Une continuité avec comme base une lecture austère du Coran. Mais qui sont les talibans? Comment sont-ils formés au départ? Et sur quels fondements repose leur doctrine ancrée dans l'islam sunnite? Et pourquoi reviennent-ils en force 20 ans plus tard? Pour en parler, nous sommes avec Adam Bashko. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS et aux séries Sciences Po. Vous travaillez sur les conflits armés. Vous êtes l'auteur du livre « La guerre par le droit, les tribunaux talibans en Afghanistan » paru en 2021, l'an dernier, donc aux éditions du CNRS. Alors c'est une approche sociologique par laquelle vous décortiquez le système taliban pour en comprendre ses mécanismes et cette imbrication entre le religieux et le politique qui est le fondement même du mouvement taliban. Alors ce mouvement s'inspire du déobandisme, un courant religieux qui naît à la fin du 19e siècle dans le nord de l'Inde. Tout d'abord, Adam Bashko, expliquez-nous ce que c'est que le déobandisme.
Alors, le déobandisme, c'est ce courant religieux qui a inspiré le clergé sud-asiatique, à la fois afghan, mais plus largement pakistanais et indien, pour ce qui est du clergé musulman sunnite. C'est un courant politique très important qui naît dans le contexte de la colonisation britannique, à la suite de la création de ce qu'on a appelé le droit anglo-musulman, qui est, pour le dire un peu de manière rapide, une prise de contrôle du droit musulman par des juges britanniques dans le contexte colonial. Vous avez une réaction du clergé, notamment dans le contexte contexte de la révolte dite des Sipai en 1866, d'un clergé qui a été mis de côté de la vie politique, de la vie judiciaire, de la vie sociale, et qui essaye de reconstruire ses propres doctrines. Et il va les reconstruire autour de deux idées centrales qui sont toujours visibles aujourd'hui chez les talibans. Une forme de fondamentalisme, l'idée d'un retour aux sources, de revenir aux sources de l'islam pour recréer une doctrine qui soit solide, qui puisse faire face aux influences occidentales de la colonisation, et aussi le rationalisme, l'idée que si le colonisateur a gagné, c'est qu'il a aussi des modes d'organisation qui sont importants à prendre en compte pour entrer de plein pied dans la modernité. Et donc c'est un mouvement de réforme qui va ensuite prendre son essor à partir de cette ville indienne de Deoband, d'où son nom de déobandisme, à partir desquelles va se créer un réseau de madrassas, d'écoles religieuses, où se forment beaucoup de gens pour simplement avoir une éducation primaire, mais surtout, et c'est ça la clé de la composition du mouvement des talibans, le clergé de cette région sud-asiatique, le clergé qui lui-même va être à l'origine de la fondation des talibans dans les années 90.
Oui, donc c'est une interprétation très littérale du Coran, avec des imitations du prophète jusque dans les gestes, les vêtements, le port de la barbe. C'est vraiment le retour aux origines.
C'est ça et des choses à côté. C'est-à-dire que c'est d'un côté l'idée qu'il faut à tout prix revenir à une forme de probité, de morale, qu'on retrouverait la mieux décrite dans les textes. C'est vraiment du littéralisme dans ce sens-là. C'est une volonté de retour au texte et de prendre dans les textes les pratiques les plus anodines, de leur donner de l'importance, que ce soit l'habillement, les manières dont on devrait se comporter pour avoir une vie morale. C'est l'entrée de toutes ces pratiques-là dans un contexte organisationnel contemporain. Et donc, c'est à la fois la volonté de mettre en avant les pratiques textuelles, mais c'est aussi la volonté de les inscrire dans une organisation, dans une hiérarchie, dans un mouvement aussi structuré que possible.
Donc, c'est un mouvement qui a aussi un projet national. C'est ça aussi qui le caractérise ?
Alors, les talibans, oui. Le déobandisme, en soi, non. Le déobandisme, c'est un mouvement qui va se structurer à l'échelle du sous-continent et dont l'influence va s'inscrire, en fait, tout simplement dans la portée des écoles religieuses de la région. À l'intérieur de ça, en fait, le déobandisme afghan et pakistanais, enfin, celui des écoles, va à chaque fois s'articuler à des idéologies politiques, se fusionner, si vous voulez, à d'autres débats brûlants à l'intérieur de ces mondes sociaux, et en particulier dans le cas du conflit armé afghan, lorsque les madrassas pakistanaises deviennent un lieu de refuge pour le clergé afghan, mais aussi un lieu d'éducation pour tous les réfugiés afghans, et bien c'est là que vont commencer, si vous voulez, la structuration de discussions à la fois profondément nationalistes, puisque l'Afghanistan traverse l'occupation soviétique, il y a toute une mobilisation en faveur d'une refondation nationale, en articulation à ces débats religieux qui n'ont cessé de se transformer tout au long du XXe siècle dans ces écoles, de prendre différentes formes au fur et à mesure que la région a évolué. Et donc c'est ces courants religieux qui justement appelaient à une refondation morale, à une refondation sociale et une refondation religieuse de la vie politique, vont prendre une ampleur dans le contexte de la guerre.
Alors cette guerre dont vous parlez, on parle surtout de la guerre à partir du coup d'État communiste de 1978, l'invasion soviétique de 1979 pour soi-disant assurer la paix. Voilà, donc des millions d'Afghans effectivement se réfugient à ce moment-là au Pakistan voisin. Et c'est là qu'ils sont largement recrutés dans ces madrassas déobandis, Dame Bashko.
Oui, en fait, la guerre va bouleverser la société afghane en profondeur. Elle est vraiment un cataclysme dans une société afghane qui n'a connu ni la Première ni la Seconde Guerre mondiale. Les combats des premiers mois, pour donner une idée de l'ampleur du choc, on a des insurrections un peu partout dans le pays qui ne sont pas simplement sur une base religieuse. Il y a le djihad est un des discours de la mobilisation, mais il y a un peu comme dans toutes ces mobilisations nationales, comme on a pu le voir par exemple aussi en Syrie plusieurs décennies plus tard, vous aviez plein de registres entremêlés. On se révoltait pour des raisons politiques, des mutineries de soldats, il y avait des mouvements maoïstes qui se rebellaient. Ce n'est qu'au fur et à mesure de la guerre que les islamistes ont véritablement pris la main sur la quasi-totalité de l'insurrection. Mais dans un premier temps, c'est un bouillonnement politique. Et l'une des raisons de la force des mouvements religieux, c'est le fait que les madrassas vont s'imposer dans les camps de réfugiés notamment comme la seule éducation disponible. Tout simplement, c'est les seules écoles qui se proposent d'accueillir autant de réfugiés. Il faut comprendre l'ampleur de ce qui se passe au Pakistan. Afghanistan. Hein. En quelques années, vous avez près de 3 millions d'Afghans qui arrivent, donc une quantité gigantesque de réfugiés qu'il faut éduquer, qu'évidemment le système scolaire pakistanais, en particulier ceux des régions marginalisées du nord du pays, ont du mal à apprendre dans leur salle de classe. Hein. Et c'est vraiment les écoles religieuses qui vont accueillir ces étudiants afghans, écoles religieuses qui avaient déjà un lien très profond avec l'Afghanistan, puisqu'il était assez récurrent hein, que le clergé afghan vienne se former dans des écoles religieuses pakistanaises. Donc vous aviez des liens préexistants qui vont faciliter cette place centrale que reçoivent les écoles religieuses, place centrale d'autant plus facilitée que l'État pakistanais lui-même, à peu près à la même époque, hein, en 1978, vous avez un coup d'État au Pakistan qui met à la tête du pays Zia-ul Haq et un général qui a une idéologie prônant l'islam politique, hein, qui va donc donner au mouvement islamiste libre cours dans les camps de réfugiés plutôt que les mouvements qui étaient un peu plus séculaires, un peu plus royalistes hein, dans ces années-là. Et c'est donc en ce mélange de soutien pakistanais et de rôle social central de ces écoles religieuses qui va donner aux islamistes et aux clergés afghans une place centrale dans la guerre.
Oui, c'est ce qui va permettre donc au mouvement taliban vraiment d'essaimer. Et finalement, avec la chute du président communiste, Mohamed Najibullah, qui d'ailleurs a été tué par les talibans en 1996, ces factions armées qui s'affrontent pour le pouvoir, ce déchirement, cette guerre favorise les talibans.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les talibans vont émerger dans ce contexte des années 90. Hein, ils émergent en 94 dans le sud du pays, à Kandahar, dans le contexte de ce factionnalisme, de ces affrontements fratricides entre les anciennes factions moudjahidines, avec des pratiques d'atrocité qui ont profondément marqué la société afghane. Hein, jusqu'à aujourd'hui, vous aviez dans les rapports ou dans les récits des gens hein, qui en parlent encore, des pratiques d'atrocité qui sont restées. Hein, un homme qui se baladait à Kaboul avec une ceinture faite des yeux des gens qu'il avait tués, enfin, des pratiques de cruauté particulièrement fortes, de profanation des corps, hein, qui va donner le sentiment d'un effondrement du monde et qui va susciter l'apparition de mouvements qui sont entre le vigilantisme et le milicianisme un peu partout dans le pays, dont les talibans sont un exemple parmi d'autres. Hein. Vous en avez un peu partout. À Razni, moi j'ai identifié en faisant des entretiens avec des gens toute une multiplication de ces petits mouvements dans l'Helmand, dans plein de provinces. Mais les talibans vont avoir deux avantages sur tous ces autres mouvements. Le premier, c'est qu'ils sont très directement articulés à ces madrassas des bandits. Ils en sont, pour la plupart des grands chefs, à l'exception de Mollah Omar, et d'ailleurs c'est un problème intéressant en soi, mais le reste du leadership est directement diplômé. Hein, ce sont des oulémas, des savants, des jurisconsultes diplômés de ces écoles religieuses.
Ça veut dire qu'on les respecte. Il y a donc une sorte de respect de l'homme religieux, du clerc.
Oui, alors c'est un respect qui prédate à la guerre. Hein. Il faut savoir que dans la société afghane, vous aviez un nombre très important de gens, de mollahs, de gens qui faisaient partie du clergé avec une éducation plus ou moins haute, plus ou moins, avec un diplôme plus ou moins reconnu. Hein, mais les soviétiques, les chiffres étaient très difficiles à estimer, mais les soviétiques ont estimé que peut-être 10% de la société afghane avait un diplôme religieux qui les faisait être part du clergé afghan. Donc c'était en fait un réseau assez important hein, avant la guerre. Et la guerre va plutôt avoir un effet de développement puisqu'en fait l'éducation religieuse est la principale éducation disponible pour les sunnites au Pakistan comme pour les chiites en Iran d'ailleurs. Hein. Il y a un effet de développement du clergé un peu partout dans le pays. Et donc les talibans dans ce contexte-là vont se retrouver réellement en position de force et donc vont se mettre à intéresser l'État pakistanais parce que l'État pakistanais soutenait jusque-là un autre mouvement, le Hezb-e Islami, qui s'est révélé échoué à prendre Kaboul et on cherche dans les cercles pakistanais une solution alternative. Et quand les talibans se révèlent être aussi efficaces localement à l'échelle de Kandahar, eh bien il y a des gens dans les services secrets pakistanais qui pensent avoir là une aubaine et se mettent à financer très fortement, à armer, à soutenir ce nouveau mouvement taliban pour l'aider à prendre le pouvoir en Afghanistan. En 2 ans, les talibans s'emparent de la quasi-totalité du pays.
Donc la prise de Kaboul date de septembre 1996. Vous dites qu'ils apportent un récit charismatique d'une révolte contre le chaos, c'est-à-dire on va rétablir la paix et on va le faire en utilisant justement ces principes de la charia.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est encore très présent dans leur discours. Quand moi, je fais mes entretiens avec des combattants talibans ou des juges talibans entre 2010 et 2016, hein, ils ont toujours ce discours-là. Dans les années 90, on retrouvait exactement ces mêmes discours-là qui étaient l'idée, hein, c'est d'ailleurs leur motto, leur cri de guerre, la justice et la loi au centre de la vie politique. L'idée est de redonner aux juges, au droit islamique, une place prépondérante avec effectivement ce récit récurrent. Hein, on le lit chez dans toutes les autobiographies de talibans. On l'entend dès qu'on fait un entretien avec un taliban, d'une révolte de la moralité face au chaos, d'une révolte d'un ordre moral face à une société qui allait à volo. Hein, avec ici, vous voyez, on pouvait avoir plein d'explications de ce qui s'est passé pendant les années 80. Hein. Vous en aviez une autre qui sera peut-être quelque chose de plus sociologique, hein, qui est celle qu'un sociologue comme Gilles de Ronceau ou moi-même mettrions en avant, d'un affrontement entre différentes élites, celle éduquée dans les universités de Kaboul contre celle éduquée dans les écoles religieuses, hein, qui va traverser ces 40 ans de conflit jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et vous avez celle que vont utiliser les talibans, qui va être de parler d'un problème de corruption individuelle. Si l'Afghanistan s'est retrouvé dans cette guerre civile, c'est parce que les Afghans ont été sensibles à la corruption, qu'ils se sont laissés aller à l'incroyance et à la corruption de leur âme, de leur conscience. Hein, et donc, si on laisse les gens mal se comporter dans la vie quotidienne, qui vole un œuf, vole un bœuf, il ne faut pas s'étonner que derrière, on se retrouve avec une société qui va collaborer comme des traîtres avec l'occupant étranger, qui va faire des atrocités ou soutenir n'importe quel mouvement politique contre la justice et la probité. Hein, et c'est cette image d'une guerre qui est causée, quelque part, qui est prolongée par la mauvaise morale, le mauvais comportement individuel, eh bien, il est au cœur d'un programme politique de remise en ordre de la société, de moralisation dans le sens le plus brutal de moralisation de la société. Il faut remettre les gens dans le droit chemin pour la concorde, pour la paix. C'est bien si les gens vont prier suffisamment, si les gens respectent les préceptes religieux, que la paix, l'ordre régnera à nouveau sur l'Afghanistan.
Mais alors, comment expliquer cette vision si rigoriste de l'islam, par exemple, qui interdit donc aux femmes de travailler, de s'éduquer? Sur quel fondement, en fait, se basent les talibans pour interpréter ce droit islamique? Vous parlez justement de jurisprudence hanafite qui s'impose à nouveau, d'ailleurs, avec le retour des talibans 21 ans après, aujourd'hui.
Oui, si on veut avoir une vision de qui sont les talibans sociologiquement, c'est donc ces gens formés dans ces madrassas, et donc ce sont des gens qui ont appris et qui se regardent comme compétents pour appliquer cette jurisprudence hanafite. Hein. La jurisprudence hanafite, c'est la jurisprudence, disons, pour aller vite, un peu majoritaire de l'islam sunnite. On la retrouve dans l'Empire ottoman, on la retrouve dans énormément de jurisprudence du monde musulman, mais on le voit bien. Il y a autant d'interprétations de ces jurisprudences qu'il y a de pratiques politiques, de gouvernement hein, dans les différents pays. La pratique talibane se caractérise par un rigorisme extrême dans l'application de ces préceptes-là, hein. Un littéralisme dans les peines et même au contraire une revendication de ce littéralisme. Moi, quand je faisais des entretiens avec des juges talibans, je m'attendais à ce que les gens soient parfois gênés aux entournures lorsqu'on parle des peines les plus sévères, les amputations, les lapidations, et au contraire, les juges revendiquaient ces peines-là comme indispensables dans le contexte de la guerre civile afghane, comme nécessaires dès lors que vous avez une société déchirée par la guerre civile, hein, et que la solution pour apaiser la société, c'est de punir toutes les formes de déviance de la manière la plus sévère qui soit.
Alors justement, quand les talibans prennent le pouvoir en 1996, ils imposent leur vision de la société. Notre regretté confrère Toufik Benaïchouch était en reportage le 27 septembre 1996 et il décrivait les conséquences sur la vie des habitants.
D'étranges sapins de Noël ont fait leur apparition à Kaboul, dans le quartier résidentiel de Wazir el-Akbar, devant la maison d'un ancien dignitaire moudjahidine. Les talibans ont accroché à un arbre des bouteilles d'alcool vides. Un peu partout dans la capitale, les arbres se parent aussi de bandes magnétiques détruites, comme devant l'ancien domicile du président Rabbani. Écouter de la musique, jugée profane, est interdit. Les talibans armés pénètrent parfois dans les maisons, c'est pour y chercher des armes, mais aussi pour détruire les postes de télévision. Les musées ont été fermés, les talibans ne tolèrent pas les statues. Du jour au lendemain, les costumes occidentaux ont pratiquement disparu au profit des camis et des chaloirs qui forment le costume traditionnel des hommes. Les talibans ont imposé aussi le port de la barbe, les mentons ne sont donc plus rasés de près. Les femmes, isolées du monde par la burqa, ce long voile sombre avec à peine une ouverture ajourée au niveau des yeux, sont de rares ombres dans les rues ensoleillées de Kaboul, toujours accompagnées d'un homme ou d'un enfant. Mais même vêtues ainsi, lorsque les talibans, le dos hérissé de lance-roquettes et de kalachnikov, les croisent, elles baissent alors la tête et cherchent l'embrasure d'une porte pour se cacher. Toufik Benaïchouch, Kaboul, RFI.
Suite à la chute de Kaboul aux mains des talibans en 1996, Mohamed Rabbani, Mollah et chef du gouvernement intérimaire, s'exprimait justement à l'époque sur l'application de la loi islamique.
Le nouvel ordre sera islamique, basé sur la charia. Tous les problèmes et les contentieux du pays et de la nation seront réglés selon les principes islamiques.
Très concrètement, les femmes, en respectant le djihad, le voile islamique, peuvent-elles continuer à exercer leur métier ?
Tout le monde peut servir le pays, qu'il s'agisse des femmes ou des hommes, mais l'islam a déterminé pour chacun des principes et des méthodes particuliers, donc chacun doit être prêt à servir selon ces mêmes principes. Tout musulman afghan peut revenir en Afghanistan pour servir le pays et la nation. Il y a peu de temps, les oulémas de tout le pays se sont rassemblés à Kandahar et ont élu Mollah Mohammad Omar Akhund, chef suprême des croyants. Et nous demandons à tout musulman de le soutenir.
Adam Bachko, le régime des talibans a résisté pendant 5 ans. Ensuite, en octobre 2001, les États-Unis lancent en Afghanistan l'opération de représailles contre les attentats du 11 septembre, avec de nombreuses exactions, des exécutions ciblées, les fameuses extraordinary renditions, donc ces arrestations, interrogatoires sous la torture dans des sites secrets de la CIA. La création des ennemis combattants qui sont envoyés à Guantanamo pour une période indéterminée sans jugement. Bref, une opération américaine rejointe par une coalition occidentale qui n'a jamais réussi à ramener la paix dans le pays, malgré des milliards de dollars déversés. Et de son côté, le mouvement taliban s'est donc reformé au Pakistan, à Quetta. Il s'est relancé donc c'est par un tissage à nouveau dans la société afghane. Est-ce que c'est aussi à cause de cet énorme fiasco?
Oui, oui, le fiasco américain et occidental, plus largement, hein, est quand même lourdement responsable du retour des talibans. Hein, il faut rappeler, c'est terrible de le dire aujourd'hui, mais en 2002 et puis à nouveau en 2003 et 2004, les talibans font des propositions de reddition. Hein. Les talibans ont le sentiment qu'ils ont perdu la guerre et qu'ils ne reviendront jamais au pouvoir au début des années 2000. L'idée d'un retour en force ne leur paraît pas pensable. Ils font passer des messages à l'ambassade américaine de propositions de reddition en échange de ne pas voir les anciens talibans et les chefs talibans notamment être envoyés à Guantanamo. Les demandes au départ sont, vous le voyez, assez limitées. Les Américains refusent, on est dans un contexte très manichéen avec l'idée que les États-Unis, dans leur toute puissance, ne pourront jamais perdre une guerre comme celle-ci, surtout face à un mouvement de simples fanatiques habillés à l'afghane et armés faiblement. Et donc, on va ignorer le fait que si les talibans ne semblent pas en mesure de reprendre le pouvoir, ils sont néanmoins une force politique existante dans le pays et qui a des racines hein, dans une partie de la société afghane, en particulier rurale. La conséquence de l'intervention va être par la suite la construction d'un régime particulièrement inique, une justice particulièrement corrompue. Les pratiques de corruption du régime sont maintenant bien connues. Celles aussi des intervenants de l'intervention occidentale ont souvent été sous-estimées, auraient mérité d'être par plein d'égards mieux rapportées. Hein. Il faut bien comprendre que les trois quarts de l'argent qui a été dépensé par les Occidentaux n'est jamais arrivé en Afghanistan, hein. À l'exception de deux secteurs très importants néanmoins, qui est l'égalité homme-femme et l'éducation, la société afghane n'a jamais vraiment bénéficié de cette intervention occidentale. Être un Afghan né au début, à la fin des années 70, au début des années 80, c'est avoir vu le régime communiste, puis les moudjahidines, puis les factions moudjahidines se battent les unes contre les autres, puis les talibans prendre le pouvoir, puis un chef de guerre lié à l'intervention américaine, puis ensuite le régime de Kaboul. Enfin, vous voyez, toute une série d'autorités qui prennent des décisions souvent très contradictoires. Et les talibans là-dedans vont parvenir à se présenter, à se faire reconnaître comme un point de stabilité, comme un point de cohérence, parce que, à la différence de la justice du régime qui est très corrompue, la justice des talibans va apparaître comme plus probe, plus honnête, plus prévisible, plus accessible aussi.
Malgré le fait qu'il y ait quand même toujours cette vision extrêmement rigoriste de la loi islamique.
Bien sûr, mais cette vision rigoriste, si vous voulez, elle s'accompagne aussi de pratiques assez strictes sur la gestion des conflits civils. Et là où les talibans vont se rendre très populaires, avant même la question de la justice pénale, hein, ou les questions matrimoniales, qui sont celles où les peines les plus violentes vont s'appliquer et qui vont faire débat, là où les pratiques des talibans ne vont pas faire débat, c'est leur manière de gérer les conflits fonciers, hein, qui sont les premières causes de conflits en Afghanistan, très, très, très majoritaires, hein, un vrai facteur explosif, d'autant plus explosif que les militaires américains et occidentaux plus largement vont généralement s'impliquer dans les conflits fonciers sans même s'en rendre compte. Hein. Ils vont soutenir une partie contre l'autre, Ils vont souvent vouloir se faire des alliés, des supplétifs. Ils vont se laisser aussi parfois manipuler par les gens qu'ils recrutent. Et donc, beaucoup des gens que les forces spéciales ont éliminés étaient des gens qui leur étaient pointés par leurs traducteurs ou leurs alliés dans la région qui, en fait, éliminaient ses propres rivaux. Et c'est cette logique d'une sécurité retrouvée dans les villages, hein, parce qu'il faut bien penser ici qu'il y a un contraste entre les villes et les villages, mais d'une sécurité retrouvée dans les villages qui va rendre les talibans populaires. Leurs décisions les plus sévères, comme les lapidations, et puis surtout leur caractère très patriarcal, leur version la plus violente du traitement des femmes, eh bien, elles trouvent beaucoup de soutien parmi une société afghane quand même très, très patriarcale, dans les zones rurales, mais aussi dans les villes, où les progrès réussis sur les questions hommes-femmes vont être vus comme des mesures politisées liées à l'intervention occidentale, mais elles vont se construire sur des questions très polémiques qui vont donner quelque part aux talibans la place de présenter leurs pratiques les plus rigoristes, comme, y compris les lapidations qu'ils pratiquent, comme une forme de réponse sociale qui ne les mettrait pas à l'extérieur de la société, mais bien à l'intérieur.
Alors, on entend justement un reportage de Sonia Ghazali, notre correspondante dans la région, sur la réaction de femmes afghanes à l'imposition à nouveau du voile intégral. Donc, c'était en mai dernier.
Quand ils forcent les femmes à faire ceci, à faire cela, à porter tel vêtement, eh bien, ils nous enlèvent notre liberté. Et ça nous brise le cœur.
La jeune étudiante a vu sa vie changer au cours des 9 derniers mois. Elle dit ne plus rire en public, ne plus s'habiller comme elle le faisait sous le précédent régime. Son amie Shekeba acquiesce. Elle explique que cette nouvelle directive des talibans est déjà appliquée depuis longtemps.
Je porte un masque parce que je suis obligée de le faire. Quand les talibans nous voyaient dans la rue, le visage découvert, ils nous punissaient. On ne le portait pas avant. C'est tellement difficile pour nous. Mais on n'a pas le choix.
Une femme en burqa, longue et ample cape bleue couvrant le visage, défend le nouveau régime.
Je suis d'accord avec eux, c'est bien de porter la burqa. Pour nous, dans les villages, cela ne pose aucun problème. Je ne comprends pas pourquoi dans les villes, les femmes sont contre.
Adam Bachko, le droit islamique taliban, dites-vous, alimente aussi le clivage confessionnel. Quelle est la situation aujourd'hui des minorités religieuses? Je pense en particulier aux Hazaras, mais pas uniquement.
Oui, bien sûr. Les Hazaras en Afghanistan, alors peut-être un point d'explication. Hein, donc les Hazaras afghans, c'est cette population chiite, hein, donc qui répond à une interprétation différente de l'islam et qui représente. Alors on n'a pas de chiffres. Il n'y a pas de recensement en Afghanistan depuis avant la guerre. Donc les chiffres qu'on a sont des estimations très très lâches, hein, mais qui représentent au moins 10% de la population afghane, peut-être 20, donc une minorité substantielle, hein, et qui a toujours été maltraitée en Afghanistan, mais qui a trouvé dans la guerre, dans les années 80, déjà parce qu'elle s'est armée, parce qu'elle a vidé son territoire de toute autorité étatique, hein, elle est très présente dans les montagnes du centre du pays, et ensuite, avec l'intervention occidentale, elle a vécu une vraie ascension par l'école et par l'intégration au sein de l'État. Beaucoup de Hazaras sont rentrés dans la fonction publique, hein, ils ont plus que personne d'autre investi dans l'éducation sur place ou à l'étranger, hein, et donc ils ont vécu une ascension très forte et voient aujourd'hui tous ces succès remis en cause. Et alors, en fait, les talibans ont une vision des minorités qui est très marquée, hein, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à dire qu'ils ne sont pas un mouvement pashtoun, alors même que leur leadership est très, très majoritairement pashtoun. Hein, et donc, aujourd'hui, les Hazaras chiites sont des citoyens de seconde zone, déclassés, qui se retrouvent avec aucun accès à l'État, à la fonction publique, avec des autorités dans leur région qui les traitent vraiment comme les derniers des derniers, hein, vraiment des citoyens de seconde zone. Aujourd'hui, être Hazara en Afghanistan, c'est devoir faire le choix entre la marginalisation ou l'exil.
Et beaucoup, d'ailleurs, ont quitté l'Afghanistan.
Énormément, parce qu'ils ont, à raison, parfaitement conscience que ce gouvernement leur laissera une place très subalterne s'il leur en laisse une. Et fondamentalement, ce futur que l'intervention occidentale leur a offert, eh bien, il faut le dire aussi explicitement que possible, ce futur-là, il n'existe pour eux qu'en Europe ou aux États-Unis.
Alors en conclusion, Adam Bachko, plus de 20 ans après, donc la société afghane pourtant a changé, le modèle politico-religieux des talibans peut-il tenir? Aujourd'hui, il y a quand même la majorité des habitants qui vit en ville, on n'est plus dans la situation d'il y a 20 ans. La majorité de la population a moins de 30 ans. Quel est votre regard à vous, Adam Bachko, sur cette pérennité possible ou non de ce régime taliban dans ce contexte?
Moi, je suis très pessimiste. Je pense que les talibans peuvent parfaitement rester au pouvoir en dépit des immenses difficultés économiques dans lesquelles ils sont. Hein. Ils ont les moyens de faire fonctionner un État réduit à peau de chagrin, réduit à sa police, à son armée, à sa justice, réduit à ses fonctions répressives et au fonctionnement quotidien le plus limité. L'avenir de l'Afghanistan est fondamentalement l'avenir d'un pays qui, pendant au moins les prochaines années, voire les prochaines décennies, sera un pays relativement isolé, avec un mouvement politique très dur qui tient le pays aux dépens de sa population et une population qui aura le choix entre la pauvreté et l'exil.
Merci Adam Bachko. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru en 2021, donc l'an dernier, « La guerre par le droit, les tribunaux talibans en Afghanistan » aux éditions du CNRS. On l'a entendu avec Adam Bachko, les Hazaras, une minorité chiite importante en Afghanistan, craignent à la fois les nouveaux dirigeants et l'organisation de l'État islamique au Khorasan. Après la prise de Kaboul en août 2021, on a pu assister à un retour de la répression contre les Hazaras. Sayed Jawad Mohammadi est un militant des droits de l'homme, originaire de la province du Badakhshan, au nord-est de l'Afghanistan. Il était basé à Kaboul, mais à l'arrivée des talibans, alors qu'il poursuivait ses actions pour les femmes et les minorités ethniques et religieuses, avec son organisation Arman Shah, qui est membre de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, il a été la cible des talibans qui ont menacé de le tuer. Il a été exfiltré du pays avec sa femme et son jeune fils en novembre dernier vers la France.
Les Hazaras sont persécutés, mais aussi les hindous et les sikhs, qui sont d'autres minorités religieuses en Afghanistan. Les minorités ethniques, comme les Kirghiz afghans, je les ai rencontrés également. Ils quittent l'Afghanistan pour se réfugier au Kirghizistan ou dans d'autres pays. Franchement, je ne vois aucune différence entre les talibans d'aujourd'hui et d'avant. Moi-même, je suis de l'ethnie tadjik et je suis de religion chiite. Les talibans ont une approche très particulière du Coran et de la loi coranique. Nous, les chiites, nous n'acceptons pas cela. Nous avons perdu l'accès à l'éducation et tous nos biens. Moi, par exemple, j'ai tout perdu en 2021. C'était la conséquence de cette guerre. Ma famille, mes oncles, mes cousins, tous ont quitté l'Afghanistan. Maintenant, dans notre village, il n'y a pas la moitié de ma famille qui est restée. Il y avait aussi des Ismaéliens, une autre branche du chiisme. Mais certains de ces villages sont maintenant totalement déserts. 90% des Afghans sont musulmans, certes, mais ils ne pensent pas comme les talibans.
À Paris, j'ai rencontré Reza Jafari, lui-même est Hazara. Ses parents ont fui l'Afghanistan à cause de la guerre et se sont réfugiés en Iran. Ses parents sont morts dans un tremblement de terre. Reza Jafari, alors âgé de 9 ans, a survécu. Il n'avait que 14 ans lorsqu'il est arrivé en France après un long périple. Il est aujourd'hui très engagé auprès des réfugiés afghans et pour le futur de son pays.
Je m'appelle Reza Jafari, je suis président de l'association Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs, membre du mouvement de la résistance afghane. Je dirige aussi plusieurs autres mouvements qui essayent d'organiser les pourparlers de paix en Afghanistan.
Pour un gouvernement provisoire de transition.
Oui, un gouvernement à peu près comme en 2001. Aujourd'hui, le souhait c'est ça, c'est de remettre ça en place, mais avec la participation des talibans.
Vous êtes réfugié en France depuis 2014. Quel est votre regard sur les talibans ? Vous-même, vous êtes jeune, vous avez 25, 26 ans.
Oui.
Quel est votre regard sur les talibans, sur leur interprétation donc, du Coran et sur l'imposition de cette loi coranique ?
Aujourd'hui, on a un régime extrémiste, fondamentaliste, intégriste, totalitaire. Il y a plusieurs branches des talibans en Afghanistan. Le branche afghan des talibans d'Afghanistan essaye juste d'installer la charia et les lois islamiques en Afghanistan, mais d'autres branches comme le réseau Haqqani, ils ont l'idéologie pour conquérir le monde, frapper partout comme ils ont fait en 2001, le 11 septembre aux États-Unis.
Donc pour vous, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que les talibans sont extrêmement fondamentalistes dans leur interprétation du Coran et dans leur imposition de la charia à la population.
Oui, ils essayent, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, d'appliquer la charia et les lois islamiques très dures. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 18 millions de femmes afghanes qui sont enfermées chez elles, n'ont aucun droit. Elles ne peuvent pas travailler, elles ne peuvent pas aller à l'école, elles ne peuvent pas voyager seules. De toute façon, les talibans ne peuvent pas gouverner en Afghanistan. L'histoire nous a montré qu'aucun groupe n'a pu rester en Afghanistan par la force.
Vous-même, vous êtes Hazara ?
Moi, je suis un Hazara musulman pratiquant. Ma femme, c'est pareil. Mais je suis aussi un humaniste, un défenseur des droits de l'homme. Il faut séparer, la croyance et la conviction politique. La religion, c'est quelque chose d'intime. C'est entre soi et son Dieu. On peut très bien le faire chez soi, à la maison, sans déranger personne. On n'a pas besoin de ça, de le ramener en plus de tout. La culture afghane est tellement riche. Le petit djihad, comme on l'appelle chez nous, c'est de défendre son pays, de défendre sa religion, son honneur. Mais par contre, le grand djihad, c'est la guerre à l'intérieur de soi-même. C'est de se réconcilier avec soi-même. Malheureusement, en Afghanistan, la religion est devenue juste un prétexte pour arriver à ses fins politiques. Pour les extrémistes comme l'Al-Qaïda, Daesh, les chiites, ce ne sont pas vraiment des musulmans, c'est des mécréants. Et pour eux, si vous tuez 7 chiites, vous allez au paradis.
Pour cette raison que vos parents ont dû fuir l'Afghanistan ?
C'était à cause de la guerre. Il y a eu des massacres, il y a eu des génocides. L'arrivée des talibans, la première fois dans les années 90, quand ils sont arrivés à Mazar-e-Sharif, pendant une journée, ils ont tué plus de 10 000 Hazaras chiites. Ça s'est répété par la suite. Et là, même dans ce régime de talibans depuis 2021, beaucoup d'Hazaras sont contraints de quitter leur maison, de partir. Les Hazaras ont été toujours dans l'histoire persécutés et continuent à être persécutés malheureusement à cause de leurs croyances et leur religion. Et l'Afghanistan, les minorités religieuses souffrent vraiment. Et il faut infiltrer de toute façon ce régime pour pouvoir changer et mener des changements.
Vous êtes optimiste?
J'étais toujours optimiste, ce qui m'a été reproché beaucoup. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être optimiste. Il faut garder l'espoir. Je suis jeune et depuis mes 18 ans, je mène un combat dur, pas en Europe, mais aussi en Afghanistan. Il faut organiser des rencontres entre les Afghans pour qu'on puisse régler les problèmes en Afghanistan. Et ce message-là, ça apporte de l'espoir. Vous savez, les femmes qui manifestent, nous on est en contact avec elles. Elles se lèvent le matin avec le ventre vide et vont manifester toute la journée et le soir dorment avec le ventre vide. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont plus de travail, elles n'ont aucune ressource. Et aujourd'hui, si on ne porte pas ce message d'espoir, le risque de réduire au silence la voix des femmes en Afghanistan pour toujours est grand.
Les Hazaras ne sont pas les seules minorités ethniques et religieuses en Afghanistan, comme le rappelait Jawad qu'on vient d'entendre. Il y a aussi des Ismaéliens, une branche du chiisme, il y avait même des Juifs qui sont tous partis, et des minorités dont on parle peu, les Hindous et les Sikhs, qui sont installés dans le pays depuis des siècles. Nous sommes en studio avec Ricardo Bonotto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant en histoire et civilisation à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et vous enseignez aussi à l'INALCO. Et vous travaillez sur ces minorités en Afghanistan, en particulier donc les Sikhs, qui depuis la guerre civile à la fin des années 80 ont été persécutés. Vous allez nous dire oui, non et comment. En juin dernier, donc, l'organisation de l'État islamique au Khorasan a revendiqué un attentat contre un temple sikh à Kaboul qui a fait 2 morts. Un attentat qui, selon les revendications, visait les hindous et sikhs après des propos tenus par le Premier ministre indien Narendra Modi, jugé offensant contre les musulmans. Alors tout d'abord, Ricardo Bonotto, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le sikhisme et ce qu'est l'hindouisme, et comment ces communautés religieuses, surtout, se sont installées dans le pays, dans l'Afghanistan d'aujourd'hui?
Oui, donc le sikhisme est une religion monothéiste, née à la moitié du XVIe siècle au Pendjab, en Inde, et s'est développée par la suite, et la religion a une forte identité avec la région dans laquelle elle s'est développée. Il se trouve que depuis des siècles déjà, une grande communauté de marchands d'Inde du Nord était installée un peu partout. On sait qu'aujourd'hui l'Afghanistan, en Perse, en Asie centrale, et il y avait des communautés qui arrivaient jusqu'à la mer Caspienne en Russie. Et la plupart de ces marchands appartenaient à une caste, les Khatris, originaires du Pendjab, qui avaient des liaisons culturelles avec les gourous du sikhisme. Donc c'était une population qui était facilement sensible à ceux qui prêchaient le sikhisme. Donc on imagine que ces marchands hindous se sont petit à petit convertis au sikhisme grâce au passage, par exemple, Guru Nanak, qui est le fondateur du sikhisme, a visité Jalalabad, Kaboul, et on pense que son passage a contribué à faire démarrer, disons, la conversion de ces populations. Donc ils sont là, ils étaient là, les sikhs étaient là bien avant la naissance de l'État afghan en 1747, et ils sont là encore aujourd'hui, même si le risque que la communauté disparaisse est très haut.
Alors, ces sikhs et hindous d'Afghanistan, est-ce qu'ils ont eux aussi des signes particuliers? On reconnaît souvent les sikhs à leur turban, des traits physiques qui peuvent justement constituer peut-être aussi des cibles.
Oui, disons que le turban que vous venez de citer, c'est l'une des premières choses qu'on remarque quand on croise un sikh. C'est un turban qui a une couleur ou des couleurs particulières, qu'on porte d'une façon très reconnaissable et que tous les sikhs qui ont été initiés à la Khalsa portent.
Alors, Ricardo Bonotto, avant la guerre civile, à la fin des années 80, les communautés sikhs et hindous comptaient environ quelques dizaines de milliers de personnes, vous dites environ 100 000. Aujourd'hui, il y a moins de 300 personnes.
Oui.
Elles ont fui à cause de quoi, principalement?
Alors, il y a eu des vagues de migration. Donc, tout a commencé à la fin des années 70 avec la révolution communiste en Afghanistan. Et les premiers à partir, ont été les membres de l'élite sikh à Kaboul, qui étaient liés à l'ancien pouvoir et qui ont été visés, comme beaucoup d'autres Afghans, par les purges du pouvoir communiste. Après, il y a eu l'invasion soviétique, ce qui a causé une migration du sikh, d'hindous et de beaucoup d'autres Afghans des provinces jusqu'à Kaboul. À cause des combats. Et donc, les Sikhs ont commencé à chercher refuge ailleurs, en Inde, en Grande-Bretagne, au Canada, un peu partout dans le monde.
Alors, quand les talibans sont arrivés en 1996, lors de leur première prise de pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis des Sikhs et des hindous?
On sait qu'il y a eu un édit du Mollah Omar qui imposait des vêtements aux minorités pour qu'ils soient reconnaissables. On dit que c'était pour faire en sorte que si la police religieuse trouvait des hommes au moment de la prière dans la rue, s'ils étaient reconnus comme minorités non musulmans, ils n'allaient pas en prison. Voilà. Moi, j'ai parlé avec des dizaines de sikhs afghans. Personne n'a jamais entendu parler de cette obligation. Donc, on imagine que l'édit a été publié, mais comme on disait tout à l'heure, c'était tellement facile de les reconnaître qu'on n'avait pas besoin d'autres marques.
Pour les reconnaître.
Oui.
Concrètement, est-ce qu'il y a eu des persécutions à cause de leur religion? Par exemple, il y a des récits selon lesquels on forçait certains sikhs et hindous à se convertir à l'islam. Il y avait un impôt particulier qui était prélevé auprès des non-musulmans.
Alors, ce sont deux choses différentes. Alors, les conversions, il y a eu des épisodes. Les gens que j'ai croisés à Paris, à Delhi, ont vécu des épisodes tentatives de conversion, mais qui n'étaient pas... ils ont été des tentatives réalisées par des gens désespérés qui pensaient peut-être améliorer leur statut en ayant converti un non-croyant. Mais c'était des choses pas du tout organisées au niveau de l'État ou de la police religieuse. Au contraire, l'impôt existe dans le monde musulman. Donc, les non-musulmans sont des dhimmis, donc sont des protégés. Ils n'ont pas le droit, par exemple, de porter des armes, etc. Et ils n'ont pas accès à certains emplois dans
l'administration.
L'administration, etc. Et en échange de cette protection, ils payent un impôt. Mais on n'a pas encore trouvé une organisation centrale de l'impôt. Parfois, c'est le chef d'un village qui demande l'impôt. En revanche, la constitution de 2004, qui a été écrite pendant l'occupation, l'intervention américaine, disait clairement que seulement un musulman avait le droit de se présenter comme chef d'État en Afghanistan. Donc il y avait une exclusion dans la constitution, mais qui ne date pas de 1996, date de 2004.
Aujourd'hui, un an après le retour des talibans en Afghanistan, quelle est la situation des sikhs et des hindous?
Je dirais que leur condition n'a pas beaucoup changé. Déjà, les filles hindous et sikhs n'allaient pas à l'école à cause de l'insécurité.
À l'école publique, donc elles allaient dans des écoles qui étaient organisées les temples.
Exactement. Et un grand nombre de garçons avaient abandonné l'école publique, justement pour les mêmes raisons et pour le harcèlement qu'ils vivaient à l'école.
Au quotidien, donc, parce qu'ils étaient sikhs ou hindous.
Hindous, voilà. La situation était déjà compliquée avant et ça n'a pas changé ni pour le meilleur ni pour le pire maintenant. Et je répète toujours une chose qu'un sikh ici à Paris m'a dit. De toute façon, quand le gouvernement change, j'ai l'impression que les gens qui combattent pour le pouvoir en place, ce sont toujours les mêmes. Donc les choses ne changent pas vraiment pour eux. Voilà.
Alors beaucoup de sikhs et d'hindous sont partis d'Afghanistan. Ils sont allés se réfugier en Inde surtout. Comment vivent-ils cet exil?
Oui, disons que tout à l'heure vous avez parlé de l'attentat récent qu'il y a eu. Donc disons que les sikhs ont été visés particulièrement par des attentats à partir de 2018. L'attentat le plus meurtrier a eu lieu en mars 2020. Et c'est là où le plus grand nombre de sikhs a décidé de quitter définitivement le pays.
Ça s'est passé à Kaboul.
Un homme, de Daesh au Khorasan, est entré dans le Gurdwara, a fait 25 morts. Ça a été, disons, la dernière goutte qui a fait vraiment prendre la décision à la plupart des gens de quitter définitivement leur pays. À ce moment, en Europe, au Canada, les frontières étaient fermées. Ces gens n'ont eu le choix que de se réfugier en Inde, principalement. L'État indien a eu le mérite de leur ouvrir les portes, de soigner les blessés et prendre en charge ces gens. Mais l'État indien n'a jamais signé la Convention de Genève sur les réfugiés. Et donc, ces gens sont en Inde avec un visa comme des touristes, par exemple, qui doivent renouveler constamment. Les jeunes ne peuvent pas s'inscrire à l'université, à l'école. Ils ne peuvent pas trouver un travail bien payé. Ils sont pris en charge par la communauté sikh internationale qui les soutient financièrement, qui paye les loyers, etc. Mais ils n'ont pas de futur devant eux. Les jeunes sont désespérés parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas travailler. Certains parlent 4 ou 5 langues couramment. Et leur rêve, je dirais pour la plupart des Afghans, c'est d'aller au Canada.
La plupart des sikhs qui restent aujourd'hui en Afghanistan, donc ils sont moins de 300, on l'a dit, finalement, ce sont ceux qui n'ont pas eu le choix de partir du pays, les plus pauvres, les plus âgés.
Exactement, ce sont les gens malades, des veuves ou des gens qui ont promis à leur communauté de rester en Afghanistan tant qu'il y aura leur temple. Le sikhisme est une religion militante, c'est une religion des guerriers, et ces gens veulent défendre les livres sacrés, leur lieu de culte, dans le but, dans un futur, de voir les sikhs afghans revenir chez eux, même si cette possibilité est un peu
lointaine,
oui.
Merci beaucoup, Ricardo Bonotto.
Merci.
C'est la fin de cette émission Religion du Monde, consacrée à l'Afghanistan un an après la reprise du pouvoir par les talibans. une émission réalisée par Ludivine Amado. Vous pouvez réécouter bien sûr cette émission en podcast sur RFI.fr et nous retrouver sur Twitter et Facebook. À la semaine prochaine. Session Lab.